Le débat africain, Namori Dosso.
Bienvenue dans votre émission. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du débat africain sur RFI. Aujourd'hui, place au regard et au coup d'œil des éditorialistes du continent. Quelle vision, quel point de vue, comment l'actualité marquante cette semaine a-t-elle été perçue au Cameroun, au Togo ou encore en Côte d'Ivoire? Nos consoeurs et nos confrères nous répondent et nous livrent leur regard. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la tension croissante au Proche-Orient entre l'Iran et Israël. Téhéran menace de frapper l'État hébreu. Retour également sur le vote des députés européens cette semaine. Ils ont adopté le pacte asile et migration. Est-ce une avancée ou un recul sur la question migratoire en Europe? On en parlera évidemment tout à l'heure. Mais dans un premier temps, l'actualité en Afrique est marquée cette semaine par l'annonce au Togo d'une nouvelle date pour les élections législatives et régionales. Ce sera le lundi 29 avril. Nous dirons également un mot autour du bras de fer qui oppose la Fédération camerounaise de football au ministère des Sports autour du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Mais tout de suite, l'actualité au Mali, avec les annonces choc de l'armée cette semaine. Les militaires au pouvoir ont suspendu les activités des partis et des associations politiques jusqu'à nouvel ordre. Ces sujets d'actualité, on en parle avec nos consoeurs et nos confrères africains. Fatim Djedji, journaliste présentatrice de l'émission Ailleurs dans le monde sur la radiodiffusion télévision ivoirienne. François Yondinkam, journaliste grand reporter au quotidien Le Jour au Cameroun, et Rodrigue Aigo, journaliste et collaborateur au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Le président de la transition en chef de l'État, statuant en Conseil des ministres, décrète article 1er sont suspendus jusqu'à un nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques. Les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national.
Ce qui est fait est contradictoire du discours et de la volonté des autorités de la transition à amener les Maliens à se parler, à se donner la main.
En prenant la décision illégale de suspendre les activités des partis politiques et des associations, la junte viole la charte des partis politiques, la junte viole la constitution du Mali. Nous allons organiser une offensive de manifestation, de contestation, et nous allons mener une résistance contre la dictature. Nous ne pouvons pas démissionner tous. Nous sommes obligés de nous retrouver, de nous ressaisir et de sauver la nation malienne qui est en péril. L'État est en phase de désagrégation. Ça ne peut plus prospérer. Il faut qu'on change les choses.
Le porte-parole du gouvernement malien, suivi de l'ancien premier ministre malien Moussa Mara et d'Ismaël Sako, président du parti PSDA aujourd'hui en exil, et qui appelle ouvertement à la désobéissance civile au Mali. Ouvrons donc ce débat africain avec la situation à Bamako. Cette semaine, le pouvoir militaire a suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités des partis et associations politiques avant d'interdire aux médias de couvrir leurs activités. Fatim Djedji, journaliste à la RTI en Côte d'Ivoire, ce nouveau tour de vis augure-t-il de jours, de semaines ou de mois difficiles pour la liberté d'expression au Mali?
On fait tous semblant d'être surpris. C'est-à-dire que c'est une logique implacable.
Vous n'avez pas été surprise, vous, par les annonces des derniers jours?
Il y a une cohérence implacable de leur point de vue. C'est-à-dire qu'on interrompt l'ordre constitutionnel, donc les textes dont se prévaut notamment les anciens hommes politiques, n'ont plus lieu de citer. Donc je pense qu'on est dans cette logique des membres de l'Alliance des États du Sahel qui confie des textes fondamentaux. Finalement, c'est tout à fait logique dans la cohérence de leur point de vue.
François Yondinkam, grand reporter au quotidien Le Jour au Cameroun, le pouvoir militaire malien invoque la protection de l'ordre public afin de suspendre les activités des partis et associations politiques. Selon vous, cet argument est-il légitime?
Moi, je crois que c'est un argument spécieux. C'est un argument qui ne tient pas la route. L'arrivée de Assimi Goïta et la junte avait suscité au sein d'une certaine couche de la jeunesse africaine quelques espoirs de réappropriation du destin de ce pays-là et comme de d'autres pays de la sous-région. Mais on est aujourd'hui déçus parce que...
Vous êtes déçus, vous?
On voit plutôt... Oui, je suis personnellement déçu parce que comme beaucoup d'Africains, je pouvais espérer un jour meilleur. Mais là, on voit clairement un recul des libertés, une volonté de confisquer le pouvoir, un autoritarisme débridé. Moi, je crois que ce n'est pas à ça qu'on s'attendait. On ne peut pas vouloir le bien d'un pays, on ne peut pas vouloir le développement d'un pays et être aussi négatif dans ce qui concerne l'expression populaire. Donc pour moi, c'est une grosse décision, c'est un recul.
Rodrigue Aigo, journaliste et collaborateur de Radio Canal K Suisse au Togo. D'après le communiqué issu du Conseil des ministres au Mali, les actions de subversion des partis politiques et de leurs alliés ne font que se multiplier dans un contexte de dialogue intermalien. C'est ce qui est écrit dans ce document. Selon vous, les autorités maliennes agissent-elles de la meilleure des façons ?
Je ne pense pas qu'elles agissent de la meilleure des façons. Parce que je le dis, vous savez, quand on est dans une certaine promesse de prise de pouvoir pour améliorer les choses, serait trop facile d'aller de restriction en restriction jusqu'à aller, je parlerai de la suppression même de l'espace civique pour prétendre maintenir l'harmonie dans son pays. Moi, je pense que ça a été l'une des décisions, je dirais, impopulaires possibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on ose critiquer un tout petit peu ce qui se passe de l'autre côté au Mali ou dans les pays qui se retrouvent dans cette situation, on pense qu'on exagère, mais on n'exagère pas du tout. Je ne vois pas en quoi les activités des partis politiques constituent une menace pour le Mali.
L'ONU appelle les autorités maliennes à revenir sur leurs décisions. Fatim Djedjé à Abidjan, comment expliquez-vous ce qui pourrait être perçu comme une forme de radicalisation de la part des autorités malienne.
Nous ne sommes plus dans un état démocratique et donc tous les aspects de la vie démocratique, c'est-à-dire la vie politique et puis bien sûr les médias qui sont finalement le quatrième pouvoir au sein d'une démocratie classique, n'ont plus le droit de citer. Et c'est une manière aussi de montrer aux gens qui avaient mis beaucoup d'espoir les concernant. Donc je pense qu'on ne peut pas être étonné par les agissements de la junte au pouvoir au Mali.
Alors compte tenu de la situation actuelle à Bamako, faut-il craindre des affrontements entre les autorités et les partis politiques, François Yondinkam ?
Oui, tout à fait. Les partis politiques ne vont pas se laisser compter aussi facilement. Et ce qui est en jeu, c'est l'avenir du pays, c'est la possibilité de s'exprimer et d'occuper l'espace public. Je crois que on ne peut pas, ce que fait la junte aujourd'hui doit forcément pousser à un mouvement, à un éveil citoyen pour se réapproprier le débat dans le pays.
Alors justement, je vous coupe François parce que vous avez parlé d'éveil citoyen. Au début du mois, plus de 80 partis politiques et organisations au Mali ont demandé l'organisation dans les meilleurs délais d'une élection présidentielle et la fin de la transition dirigée par les militaires. Lequel d'entre vous pense qu'il pourrait y avoir un lien de cause à effet ?
C'est évident puisque ça a été dit dans le communiqué que finalement ces partis politiques perturbent finalement l'ordre établi au Mali et que leurs discussions, ou en tout cas leurs revendications, ne vont pas dans le sens de la junte. Donc c'est évidemment le prétexte, ou en tout cas l'une des raisons, ces dernières sorties, notamment des 80 partis politiques, c'est une réponse claire et nette d'Assimi Goïta à ces derniers.
Rodrigue Aigo au Togo, est-ce que cela veut dire que le Mali et les Maliens sont embarqués dans ce que l'on pourrait qualifier de transition à durée indéterminée ?
Mais ça, c'est le constat, c'est la meilleure constat. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit dans ce communiqué-là que les discussions ont été stériles avec la classe politique et que sûrement suite à cet appel donc des 80 partis et groupes civils d'aller vite aux élections pour transférer le pouvoir aux civils, je pense que les militaires ont reçu ça comme une sorte d'injonction qui risque d'écourter leur vision de je ne sais comment l'appeler à la tête de l'État. Donc ils ont juste décidé de supprimer et ça, avec ça, on est dans l'incertitude par rapport à la question de savoir à quand justement la fin de cette transition-là. Je ne sais pas s'il faut continuer de l'appeler transition, mais c'est un peu comme si c'est un boulevard largement ouvert pour faire ce qu'on veut du destin de tout un peuple.
Et on continuera de parler de ce qu'il se passe actuellement dans le pays de Soundiata Keïta. La situation au Mali, c'est bien entendu à suivre sur RFI et RFI.fr.
Le débat africain.
Au terme du décret adopté ce jour, le calendrier électoral est réaménagé comme suit. Date des élections législatives et régionales, lundi 29 avril 2024.
La présente révision vise à adopter un nouveau régime politique plus représentatif, à transformer le système politique et apporter un nouvel élan dans la gestion de la chose publique.
Il fallait changer ce système partisan depuis les années 90 que nous avons hérité. Il fallait quand même clarifier un certain nombre d'insuffisances observées dans la Constitution de 92. Dorénavant, vous gagnez, le Parlement, vous dirigez le pays. C'est aussi simple que ça.
Ce mercredi, la porte-parole du gouvernement togolais a mis fin à l'incertitude au sujet du déroulement des élections législatives et régionales dans le pays. Initialement prévues le 20 avril, elles auront désormais lieu le 29 avril. Mais les interrogations demeurent au sujet de la loi constitutionnelle votée à la fin du mois de mars par les députés et qui se traduirait par un changement de régime politique. Le présidentialisme laisserait place au parlementarisme. Du côté de l'opposition, la coupe est pleine. Mais qu'en pense la rue togolaise? Écoutez.
Je suis vraiment contre cette révision constitutionnelle, puisque les députés en fait de mandature n'ont pas le droit de changer la constitution. Ils auraient dû passer par une consultation nationale, selon moi, pour avoir aussi l'avis de la population avant de faire ce changement constitutionnel.
En tant que revendeuse, j'approuve le texte de révision constitutionnelle adopté par les députés. Nous avons remarqué qu'à chaque élection présidentielle, il y a de fortes tensions dans le pays.
Voilà pour le sentiment de certains Loméens et Loméennes. Rodrigue Aigo à Lomé, pourquoi cette nouvelle loi fondamentale suscite-t-elle tant de crispations dans le pays?
C'est normal que ce nouveau test-là pose problème dans le pays. Il y a une question de principe et une question, pas de fond, mais de procédure. Sur le principe, on est d'accord que selon la constitution en vigueur, les députés actuels, leur mandat est arrivé à terme depuis le 31 décembre 2023.
Le fait d'avoir voté cette loi constitutionnelle est inopportune compte tenu du fait que les députés n'ont plus de mandat depuis décembre, c'est bien ça?
C'est inopportune. Pourquoi attendre la fin donc du mandat et au-delà? Parce que selon la Constitution, on devrait organiser les élections législatives à 30 jours de la fin du mandat. Ce qui voudra dire que s'il faut logiquement organiser les élections législatives, ça doit être au mois de novembre 2023.
Alors Rodrigue, je précise quand même que ce texte voté fin mars par les députés à l'Assemblée nationale du Togo a été renvoyé en examen par le président Fornia Simbe pour une nouvelle lecture. Cette semaine, plusieurs dirigeants du pays ont fait la tournée dans les villes et dans les provinces afin d'expliquer cette loi. Maimouna Ibrahima, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qu'on a pu entendre sur l'antenne de RFI, disait que c'était une loi qui allait permettre de stabiliser le pays. Fadim Djedje à Abidjan, si cette loi permet au pays d'être stable, pourquoi ne faudrait-il pas l'accepter?
Alors en fait, le débat de fond, moi je pense qu'il est à la base intéressant. C'est-à-dire qu'on reproche régulièrement à nos pays africains d'avoir des régimes hyper présidentialistes où finalement le chef d'État est un peu le monarque fut-il républicain. Et finalement, c'est une question qui, je pense, est vraiment intéressante. Hein. Mais ce qui pose peut-être problème, c'est qui en a l'initiative. Et qu'on sait que régulièrement, lorsqu'on modifie les constitutions ou les textes fondamentaux, généralement c'est en sa faveur. Et peut-être en défaveur d'autres partis. Donc, le fond, moi, je trouve que le sujet est intéressant, parce qu'effectivement, nos régimes présidentialistes font que, en plus, lors des élections législatives, le confrère le disait, donc parfois on doute des résultats, si le chef de l'État a la majorité, finalement, il a tout un boulevard pour faire plus ou moins ce qu'il veut. Maintenant, sur la forme aussi, j'attends confirmation de notre confrère Codroulé, mais je crois comprendre que pour ce genre de modification, il aurait fallu qu'il y ait un référendum. Généralement, les changements...
Et c'est d'ailleurs ce que dénonce l'opposition togolaise depuis plusieurs jours.
Il y a un problème, on va être peut-être de légalité. Maintenant, la légitimité, il faut le rappeler que nos constitutions, même si on doit éviter de les modifier régulièrement, elles ont en leur sein aussi, dans leur propre texte, des mécanismes pour qu'on puisse y apporter des modifications. Elles ne sont pas inébranlables et intouchables.
Alors, un célèbre proverbe africain dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». François Yondinkam au Cameroun, un mot au sujet de la forme qu'évoquait notre consoeur en Côte d'Ivoire. Voter une loi si importante et ensuite aller l'expliquer à une population qui n'a pas été consultée, n'y a-t-il pas des choses à revoir au sujet des méthodes employées par le gouvernement togolais?
Bien plus, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Clairement, il s'agit pour Fornia Sibé de s'aménager une présidence à vie.
Alors qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce que jusqu'à présent, le président n'a pas manifesté ce genre d'ambition.
Il se trouve que cette constitution a été modifiée, en 2019, et que déjà, sur le format actuel, il peut se représenter en 2025. Clairement, en quoi ce régime, entre guillemets, parlementaire qu'on nous vend aujourd'hui, est différent de l'hyper-présidentialisme. On ne nous en dit pas grand-chose. Le président, dans cette réforme constitutionnelle, aura plus un rôle honorifique. Les pouvoirs seront entre les mains d'un président du Conseil des ministres. Alors, qu'est-ce que ça change? Moi, je crois que c'est plus une entourloupe pour s'aménager un autre mandat après celui de 2025 qu'il aurait décemment eu à voir. On est affaire à une famille qui est au pouvoir, je crois, depuis 1967 et qui estime qu'elle peut, comme ça, s'approprier un pays sur le long terme, à vie. Moi, je crois que c'est très malsain. C'est une image négative que l'on envoie au reste du monde. À ce propos, ce n'est pas loin de ce que l'on vit aujourd'hui au Cameroun. À chaque fois que les élections approchent, à chaque fois qu'il y a une échéance, eh bien, on voit celui, le tenant du pouvoir, on le voit traficoter des choses pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. On l'a vu au Cameroun en 2018. La Constitution ne permettait plus au président de la République de se représenter. Il l'a modifié. Aujourd'hui, il peut se représenter à vie. Il est là depuis 42 ans. Si on veut changer, si on veut montrer autre chose à la face du monde, il faut qu'on sorte de cette manipulation constante de la Constitution.
Alors, une question sur le fond de cette réforme constitutionnelle. Si le Togo basculait dans le parlementarisme, cela ne pourrait pas conduire à une ouverture du jeu politique. Rodrigue Aigo, au Togo, n'est-ce pas une belle occasion pour l'opposition d'enfin prendre le pouvoir?
Le problème actuel, ce n'est pas une question de régime. Le mal togolais, tout comme le mal camerounais, comme aussi le mal de tous ces pays francophones d'Afrique, c'est une question de gouvernance. On a un véritable problème avec la gouvernance et de l'applicabilité même des tests que nous-mêmes nous donnons. Sur la question de principe, je me permets de vous lire l'article 59 de la Constitution en vigueur au Togo. Je préfère associer l'alinéa 1 pour qu'on comprenne. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et l'alinéa 2 dit « Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. » Alors, j'admets que les gens sortent d'un sommeil profond et décident tout de suite d'accuser un régime présidentiel et de dire que la solution, c'est un régime parlementaire. Alors, qu'est-ce qui empêche d'aller dans la légalité? Qu'est-ce qui empêche de suivre la procédure ou le schéma dessiné par la Constitution en vigueur? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et vous savez aussi qu'avec le président de la République du Togo, ça fait quand même bientôt 20 ans, qu'il est au pouvoir après les 38 ans de son papa. Et tout le monde sait que l'initiative actuelle n'a qu'un seul but, perpétuer son pouvoir. Parce que cela lui permet justement de contourner la limitation des mandats et de se faire applaudir par les députés pour dire « ben voilà, on m'a élu ». Non.
L'avenir, l'avenir nous dira si ce que vous nous décrivez à l'antenne de RFI aujourd'hui. Toute l'actualité politique au Togo, c'est bien sûr à suivre sur RFI. Rendez-vous notamment dans la revue de presse Afrique chaque matin à 6h45, heure de Lomé et en temps universel.
Le débat africain.
Un dernier mot avant de conclure cette première partie du débat africain. Au Cameroun, François Yondinkam, que se passe-t-il à la FECAFOOT?
Il se passe que le ministre des Sports a pris celui de nommer un sélectionneur, répondant, dit-il, ou bien supposons-nous, à la demande du chef de l'État qui est mécontent des résultats actuels des Lions Indomptables. Le ministre a pris celui de nommer un sélectionneur sans en référer à la Fédération camerounaise de football, comme cela aurait dû être fait. Le ministre s'appuie sur les résultats catastrophiques, le management qui n'est pas satisfaisant de l'équipe Samuel Eto'o actuellement.
Et donc un nouveau sélectionneur a été nommé en la personne de Marc Brice, alors que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, n'était pas forcément consulté et d'accord pour cela. Est-ce que c'est un désaveu pour Samuel Eto'o au Cameroun?
Oui, c'est un désaveu clair qui vient de la hiérarchie de l'État. Mais ce qui est préoccupant dans cette nomination, c'est que même le ministre se vautre aujourd'hui dans un combat de personnes parce qu'il ramène tout le staff de Tony Conseil-Sao qui avait été, on pourrait ainsi dire, limogé par Samuel Eto'o. Plus grave, il nomme un sélectionneur, il nomme un coordonnateur des sélections nationales qui est l'ancien secrétaire général de la FECAFOOT qui est aujourd'hui en procès avec Samuel Eto'o. C'est clair que c'est un combat de personnes qui ne sert pas la cause du football camerounais. Samuel Eto'o a promis son comité d'urgence de nommer un sélectionneur, mais je crois que avec le développement de la situation aujourd'hui, il lui est difficile de reprendre la main. Il doit faire profil bas et voir ce nouveau sélectionneur se déployer sur le terrain.
On va faire une courte pause dans le débat africain. Juste après le journal, nous parlerons des menaces de représailles de l'Iran contre Israël et des eurodéputés qui ont adopté cette semaine le pacte asile et migration.
Le débat africain, Namori Dosso.
Bienvenue et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez dans la deuxième partie du débat africain sur RFI. Ce samedi, place au regard des éditorialistes africains. Ils nous donnent leur point de vue sur ce monde en perpétuel mouvement. Nous sommes en ligne d'Abidjan avec Fatim Djedjé, journaliste et présentatrice de l'émission Ailleurs dans le monde sur la RTI. De Douala, au Cameroun, avec François Yondinkam, journaliste et grand reporter au sein du quotidien Le Jour. Enfin, nous sommes également à Lomé, au Togo, avec Rodrigue Aigo, journaliste et collaborateur de Radio Kanaka Suisse dans le pays.
Régime khabith.
Le régime maléfique a commis une erreur. À cet égard, il doit être puni et le sera. Lorsqu'ils ont attaqué notre consulat, cela signifie qu'ils ont attaqué notre territoire.
Nous avons fait savoir à l'Iran que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans l'attaque qui s'est produite à Damas, comme je viens de le mentionner. Et nous avons mis en garde l'Iran contre l'utilisation de cette attaque comme prétexte pour poursuivre l'escalade dans la région ou attaquer les installations ou le personnel américain.
Ces jours-ci, toutes les lignes téléphoniques diplomatiques chauffent afin d'éviter une escalade régionale au Proche-Orient. Personne ne doit jeter de l'huile sur le feu. Et personne ne peut avoir intérêt à un embrasement aux conséquences totalement imprévisibles. Tous les acteurs de la région sont invités à agir de manière responsable et à faire preuve de retenue.
L'Iran va-t-elle attaquer Israël ? Selon le président américain Joe Biden, Téhéran menace de lancer une attaque importante sur le territoire israélien. Les chancelleries occidentales sont en alerte. Vous venez d'entendre la chef de la diplomatie allemande. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a annoncé cette semaine qu'Israël serait puni, réaction du pouvoir de Téhéran, après les frappes attribuées à Israël et qui ont détruit le consulat iranien à Damas en Syrie. C'était le 1er avril. Bilan, 16 morts côté iranien. Fatim Djedjé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La riposte iranienne semble se préciser. Faut-il redouter un embrasement régional ?
Très clairement, oui. Cette situation s'envenime. Pour l'instant, il n'y a pas d'acte, mais dans les propos, déjà, on voit cette escalade. Et effectivement, c'est inquiétant. On accusait déjà l'Iran, en tout cas, on le soupçonnait fortement d'être lié au massacre du 7 octobre en Israël, que ce soit par un appui logistique, financier ou autre. Et donc, dans cette logique, on n'est pas surpris de voir que l'Iran est à côté du Hamas et qu'il y aura peut-être un retour de bâton. Et les Américains sont souvent extrêmement bien renseignés. Ils nous avaient prévenu, du moins, dit-il, et ça a été confirmé, de l'attaque russe, l'invasion russe en Ukraine. Pareil pour les attentats terroristes en Russie. Donc on peut se dire qu'ils ont des informations assez fiables, même si dans l'histoire, il faut le rappeler, qu'ils ont parfois aussi eu des informations erronées, ce ne serait que pour l'Irak.
L'Iran avait déjà menacé à deux reprises Israël. Rodrigue Aigo, Togo, pensez-vous que le pouvoir iranien a les moyens de riposter ?
Écoutez, aujourd'hui, tous ces pays qui s'inscrivent dans la logique de la guerre ont pris du temps pour se doter de moyens. Et vous savez que c'est à juste titre que les autres pays, notamment les États-Unis, procèdent à cette mise en garde. Et donc, depuis que la plupart de ces nations ont compris qu'il y a une politique du plus fort sur le plus faible, chacun a cherché à se doter de moyens pour avoir voix au chapitre. Et donc, c'est inadmissible de comprendre que le monde aujourd'hui est en train, chaque jour que Dieu fait, de prendre la piste d'un navire qui risque de chavirer à tout moment. Et donc, quand vous prenez par exemple le Moyen-Orient aujourd'hui, avec la situation déjà qu'on a du mal à maîtriser entre Israël et la Palestine, vous prenez par exemple l'Iran qui protège clairement aussi, tout comme les États-Unis le font avec Israël, le Hamas. Vous comprenez que, je l'ai appelé quelque temps, une guerre par procuration, ce sont les vrais mêmes tenants de cette guerre qui veulent s'affronter. Donc les États-Unis qui menacent d'une part et qui plutôt rappellent à l'ordre d'une part, et l'Iran qui menace de l'autre côté.
Alors, est-ce que cette riposte annoncée ne serait pas de l'ordre du symbole ? Selon vous, est-ce que l'Iran souhaite vraiment une guerre ouverte contre Israël et ses alliés, notamment américains ?
Oui, moi je ne pense pas que pour l'Iran, ce sera une guerre à livrer contre Israël, mais plutôt passer par Israël pour livrer la guerre aux États-Unis.
Et François Yondinkam au Cameroun, vous partagez le point de vue de notre confrère à Lomé ?
Je garde espoir que la diplomatie, et que le dialogue, même s'il est... il se fait à des degrés moindres, reprennent droit de cité. Je crois qu'on est encore dans une escalade rhétorique guerrière. Parce que, rappelez-vous, avant ces derniers développement, on avait plutôt une rhétorique américaine qui tendait à traîner des cas de fer face à la lancée israélienne sur la Palestine. Les Américains n'étaient pas pour les attaques menées sur le sol palestinien par Benjamin Netanyahou.
C'est vrai que ces derniers temps, on a pu observer une forme de désaccord entre Américains et Israéliens sur la façon de mener l'opération dans la bande de Gaza.
Tout à fait. Et puis, ces derniers développements avec l'Iran qui menace d'attaquer Israël ont plutôt fait changer de discours aux Américains. Ces dernières semaines, ils avaient mis un bémol à leur soutien. Mais là, face à la menace iranienne, ils se mettent en bloc derrière Israël parce qu'il s'agit, comme le disait mon confrère tout à l'heure, il s'agit d'une confrontation avec l'Iran. Mais je reste persuadé qu'on en est encore aux menaces et à une rhétorique guerrière.
Alors justement, est-ce que le fait d'annoncer en grande pompe qu'elle va riposter, l'Iran ne se place pas dans une forme d'escalade contrôlée, Fatim Djedjé?
Avant que passe à l'acte, souvent on a des propos qu'on en tient, je suis d'accord avec mes confrères, mais ce sont des pays quand même dont la menace doit être prise au sérieux. Au-delà du conflit qui se poursuit avec l'Iran et les États-Unis, il y a une détestation d'Israël par l'Iran qui ne s'en cache pas. Et encore une fois, j'insiste, dans l'attaque du 7 octobre, on sent qu'il y a eu des aides venant de là-bas. Alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de cette logique? Et c'est la vraie question pour tous les conflits en cours. C'est-à-dire, certains ont l'arme nucléaire, c'est-à-dire que beaucoup se sont dotés au plus haut niveau, mais tout le monde reste quand même conscient de cette épée Damoclès qui ferait basculer le monde d'un point de non-retour.
Oui, mais Fatim, est-ce que le propre d'une attaque réussie n'est pas qu'elle intervienne par surprise? Est-ce que vous comprenez que l'Iran annonce aussi ouvertement sur les toits du monde qu'elle va attaquer Israël dans le contexte actuel au Moyen-Orient?
Non, ça, ce sont des propos qu'on entend très régulièrement pour ceux qui suivent la situation au Moyen-Orient. On n'a pas attendu les derniers conflits pour avoir ce genre de menaces ou de propos de ce genre. Maintenant, ce sont les Américains qui disent avoir des renseignements et c'est en cela que c'est intéressant. C'est vrai qu'habituellement, ils ne les annoncent pas publiquement. C'est quand l'attaque a lieu qu'ils revendiquent avoir prévenu les uns les autres. Donc, ces doubles propos nous interpellent. Mais moi, je voulais revenir sur ce que disait mon confrère par rapport à l'escalade de manière générale, un peu partout dans le monde. Ce qui m'inquiète et ce qui m'effraie, c'est finalement l'impuissance de chacun. Face aux institutions régionales, internationales, personne n'arrive à faire entendre raison à personne dans ces différents conflits. Et la menace s'accélère, et je ne sais pas vers où on va, mais il va falloir réfléchir à une réforme profonde de toutes ces institutions, car elles sont visiblement incapables de mettre fin à des conflits. On a récemment commémoré le drame du génocide de Rwanda. On se rend compte que ces institutions, je pense à l'ONU en tête, n'ont plus du tout de raison d'être. Ce sont
alors,
des coquilles vides.
Alors rappelons que les menaces iraniennes interviennent en pleine guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Si l'Iran mène une attaque depuis son territoire, Israël répondra et attaquera l'Iran, déclarait ces dernières heures Israël Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères. François Yondinkam au Cameroun, Israël est engagé militairement dans la bande de Gaza depuis 6 mois maintenant. La possible ouverture de nouveaux fronts face à l'Iran, n'est-ce pas risqué pour Israël?
Oui, c'est très risqué, d'autant plus que la situation sur la bande de Gaza est carrément catastrophique. On parle de plus de 33 000 morts.
Selon les chiffres du Hamas, précisons qu'il s'agit des chiffres du Hamas.
Tout à fait. Mais déjà, la perception globale que le monde a de la présence des attaques d'Israël là-bas est plutôt négative. On voit une déshumanisation totale de la guerre. Oui, je crois que jusqu'ici, la réponse d'Israël est totalement disproportionnée par rapport aux attaques qui ont eu lieu. Et là, je voudrais rebondir sur ce que disait ma consoeur. D'un mot, elle a dit il y a une détestation de l'Iran vis-à-vis d'Israël. Moi, je crois qu'il faut sortir de ce discours manichéen. Il faut sortir de ce discours qui vise à indexer ou bien... On est dans un monde où le rapport de force, je vais dire, fait tout. Des pays sont en guerre parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts. Maintenant, on a une instance de régulation qui est l'ONU qui ne joue pas son rôle, qui est confisquée par...
Mais peut-être jouer son rôle, justement. Est-ce que, entre guillemets, la garantie de survie de l'ONU, c'est qu'elle soit limitée par rapport aux États?
Tout à fait. Là-dessus, je crois que les appels à une réforme du système de sécurité des Nations Unies sont plus urgente que jamais. Et puis, il y a aussi des concertations régionales qui auraient pu lier. Par exemple, on n'attend pas beaucoup la Ligue arabe. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment est-ce qu'elle se positionne parmi tous ces conflits? Est-ce qu'elle ne peut pas jouer un peu plus de sa médiation pour pouvoir tempérer les ardeurs de l'Iran, par exemple? On ne la voit pas beaucoup. Donc je crois que la diplomatie est totalement absente, le dialogue est totalement absent. On est rentré dans une logique de force et de rapport de force. Et je crois que c'est très dangereux pour le devenir de la planète, comme disaient mes confrères.
Alors, j'évoquais tout à l'heure les risques pour Israël de l'ouverture d'un nouveau front avec l'Iran. L'Iran a des alliés dans la région. Il y a le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen qui perturbent le trafic en mer Rouge avec leurs attaques, sans parler des milices chiites présentes en Irak et en Syrie. Rodrigue Aigo, au Togo, cette guerre pourrait-elle être celle de trop pour Israël ?
Toutes les guerres sont à détester. Et je suis d'accord avec mon confrère quand il dit que nous sommes finalement dans une sorte de jungle où il n'y a pas un professeur qui est capable de maintenir l'ordre. Et vous savez, l'ONU montre ses limites parce qu'il y a des pays qui ne calculent même pas les injonctions, par exemple, de l'ONU. Et pourtant, l'ONU constitue une sorte d'organe d'autorégulation pour les autres pays. Donc, à un moment donné, les gens se sont dit, ben, écoutez, si on peut être ensemble et qu'il y ait des gens qui peuvent se permettre certaines libertés que d'autres n'en peuvent pas, ben, allons-y tout de suite. Tout le monde n'a qu'à chercher un pied d'appel et puis bonjour les dégâts si quelqu'un provoque l'autre. C'est la situation actuelle que vit le monde et c'est un peu suicidaire. On se demande jusqu'où ça va nous conduire. Donc, aujourd'hui, moi, je crois que s'il faut trouver une solution à cela, il faut clarifier les positions des États-Unis sur la guerre entre Israël et le Hamas. Guerre.
Justement, Rodrigue, parlons des États-Unis. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, a même demandé aux chefs des diplomaties chinoises, turques ou saoudiennes d'intervenir pour dissuader l'Iran d'attaquer Israël. La situation actuelle au Proche et Moyen-Orient n'est-elle pas en train de devenir un véritable boulet pour l'administration Biden à quelques mois de l'élection présidentielle, Fatim Djedjia, à Abidjan?
Alors, c'est un boulet, je pense, pour le monde entier. Honnêtement, je crois que c'est Antonio Guterres ou un autre représentant de la Nations Unies qui a affirmé que finalement, on a perdu toute la moralité face au conflit qui perdure et au massacre qui perdure en Palestine. Et je pense que tout le monde a une responsabilité, du moins à travers nos représentants dans les instances onusiennes. Même l'attaque supposée, hypothétique de l'Iran face à Israël ne peut pas être justifiée si on mettait fin à ce qui se passe actuellement. Et ce n'est toujours pas le cas. Donc je pense que cette responsabilité, elle est partagée et qu'il va falloir, encore une fois, réviser ces institutions. Et tout à l'heure, un confrère parlait des Nations Unies, mais des injonctions faites à Israël ne sont jamais respectées. On n'a pas attendu, encore une fois, le massacre du 7 octobre pour faire ce constat. C'est-à-dire que toutes ces décisions, toutes ces injonctions ne sont jamais respectées. Et ce deux poids deux mesures ne peut pas perdurer. Et je pense qu'il y aura un avant-après. Et en termes de diplomatie pour Israël, ça va être un retour de bâton. Et contrairement à ce que disent nos confrères, c'est vrai que de manière, on va dire, concertée et affichée, on ne voit pas la Ligue arabe. Mais rappelons que pour tous les convois humanitaires, il y a eu des négociations. Les Émirats arabes et d'autres pays sont souvent sollicités. L'Égypte, dont on ne sait pas trop le rôle, ils ouvrent les vannes, mais les referment aussi. Et n'oublions pas aussi qu'Israël, dans ce rapport de force, a décidé à travers les accords d'Abraham de se rapprocher de beaucoup de pays arabes. Donc, je pense qu'il y a une diplomatie qui ne s'affiche pas, que cette situation est gênante, encombrante pour tout le monde, et que, à part certains qui ont des postures affichées, assumées, comme les Américains ou l'Iran, tous les autres sont très, très mal à l'aise. Les pays européens occidentaux, ils ont peur de faire venir, d'emporter ce conflit en leur sol, parce qu'ils ont souvent une grande communauté à la fois juive et musulmane, puisqu'on a tenté de faire passer ce conflit pour un conflit confessionnel, ce qui n'est pas le cas au départ. Je le rappelle. Et donc, je pense Merci. Que c'est encombrant pour le monde entier.
Le débat africain.
On quitte le Proche-Orient pour le vieux continent. Après des années d'âpres négociations, les députés européens réunis à Bruxelles cette semaine ont adopté le pacte asile et migration.
Après des années de travail intense, le pacte sur l'immigration et l'asile devient une réalité. C'est un énorme pas pour l'Europe. Et cet excellent résultat est le fruit du travail remarquable de tant de personnes. Le Parlement européen vient de voter en faveur d'une nouvelle voie en matière d'asile et de migration. Nous avons écouté, nous avons agi et nous avons répondu à l'une des principales préoccupations des citoyens européens. Nous avons promis un nouveau système qui soit équitable pour ceux qui peuvent bénéficier d'une protection, qui soit ferme pour ceux qui ne peuvent pas, et qui soit fort contre les trafiquants et les réseaux qui s'attaquent aux personnes les plus vulnérables. Ce soir, nous avons tenu cette promesse.
Le satisfait site de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et de Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, cette semaine après le vote sur le pacte asile et migration. Selon vous, le pacte sur l'immigration et l'asile en Europe est-il un progrès, Rodrigo Aigo Togo?
Ce n'est pas du tout un progrès. Je comprends parfaitement que les différents pays d'Europe veulent limiter un peu les entrées sur leur territoire, filtrer en quelque sorte ceux qui arrivent. Mais il y a, par exemple, des points qui n'ont pas été évoqués dans ce pacte-là, par exemple.
Et Alors, citez-nous un ou deux points qui n'ont pas été évoqués, Rodrigue.
Dans un premier temps, l'opération de sauvetage en mer. Que devient cette opération? Parce que depuis quelques années maintenant, ce sont des ONG qui s'en chargent. Ce pacte ne prend pas en compte cette opération-là parce que c'est par des voies détournées que ces migrants arrivent. Et lorsqu'on ferme les frontières et on installe des camps pour faire le tri, alors il faudra que les gens arrivent sains et saufs à franchir l'océan avant d'espérer être stockés dans les camps de concentration pour pouvoir passer à cette opération que j'appelle filtrage.
Rodrigue, je rebondis sur ce que vous dites. Ce pacte adopté mercredi à Bruxelles par les eurodéputés, n'est-ce pas une amélioration qui pourrait dissuader justement les passeurs qui profitent de la vulnérabilité des migrants?
Je ne pense pas. Vous savez, il y a, par exemple, quand vous allez interroger la causalité, la première des questions à se poser, c'est qu'est-ce qui fait fuir les gens de chez eux pour défier les eaux et aller dans un pays incertain, un pays qu'on ne connaît pas, parce que justement, les gens sont à la recherche, je ne parlerai pas d'Eldorado, mais de cette paix-là, du vivre ensemble qui manque dans leur pays. Quand vous prenez, par exemple, la plupart des pays africains ou les autres pays dont les populations fuient pour aller vers, il y a les pays en guerre, il y a les pays dans lesquels les déficits démocratiques sont enregistrés en masse, il y a ces pays qui connaissent des difficultés en matière de gouvernance, où les hommes qui ne sont pas d'accord avec les systèmes de gouvernance sont poursuivis, sont pourchassés. Et donc, quand vous prenez ceux-là qui, à un moment donné, sont obligés de défier la nature pour aller à la recherche d'un environnement tranquille où vivre et qu'on leur impose, par exemple, ce pacte-là, c'est normal, comme je le dis.
Fatim Djedji à Abidjan, Côte d'Ivoire, comment apparaît à vos yeux la façon avec laquelle les contrôles sont exercés par les États européens?
Ces contrôles se sont durcis, on peut le dire, et on comprend. C'est une réflexion que devait mener l'Europe, parce qu'on est quand même tous conscients que de plus en plus de partis politiques dits d'extrême droite arrivent à venir au pouvoir, soit par des coalitions ou dans le débat public. Et donc, je pense que c'était une manière, finalement, de parler publiquement de ces questions qui sont souvent traitées dans les pays occidentaux. Mais maintenant, la manière dont c'est fait, encore une fois, on fait face à beaucoup d'hypocrisie. On nous parle de passeurs, mais comme disait le confrère, c'est d'abord la misère du monde qui doit être réglée. Ces pactes-là n'ont qu'une viabilité si on ne vient pas en amont régler les problèmes, c'est-à-dire d'où viennent ces migrants et pour quelles raisons ils partent. C'est d'abord, je pense, le fond du problème. Et en cela, nous, pays africains, avons une grande responsabilité sur ces questions-là. Et puis, le cas ukrainien aussi a posé question et je pense qu'a précipité ce texte qui est en discussion depuis 10 ans quand même. Et le fait que, finalement, tous ces pays européens, en ayant ouvert les vannes d'une manière, on va dire, importante par rapport aux autres pays en guerre ou en conflit, eh ben, sont rendus compte qu'ils ont été asphyxiés eux-mêmes par cette générosité soudaine. Et donc, il a fallu prendre des décisions. Maintenant, est-ce que ça va suffire à freiner cette espèce de vague extrémiste que l'on voit dans les pays occidentaux? Je ne sais pas. Mais je pense que ce texte n'est pas viable et pose question sur plusieurs aspects.
Et c'est sur le point de vue de notre consoeur à Abidjan, Côte d'Ivoire, que nous allons clore ce débat africain. Merci à tous les trois d'y avoir participé et d'avoir apporté vos regards sur ce monde en perpétuel mouvement. Ce débat africain est bien évidemment à retrouver et à réécouter sur l'application RFI Pure Radio. Merci également à l'équipe du débat africain, Delphine Michaud à la coordination et Taguimfa Traoré à la réalisation. Notez que le débat africain change de case horaire. Vous nous retrouverez à 8h10 et 22h10, temps universel le samedi. De Dakar à Kinshasa, en passant par Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains dans un monde en perpétuel mouvement.